Laudetur Jesus Christus.
Léon XIV déplore l'abîme de la violence en Orient, de l'Ukraine au Tigré en passant par le Caucase. Lors d'une audience ce matin avec les représentants des églises orientales, le pape a rappelé la disponibilité du Saint-Siège à la médiation entre les belligérants. Nous y reviendrons en début de ce journal. Et puis nous rendrons également l'un des participants à cette audience, Monseigneur Edgar Madi, le quatrième évêque maroni du Brésil. Parmi les théâtres de guerre en Orient, la Terre Sainte, les frappes israéliennes ont fait 80 morts ce mercredi à Gaza, selon la défensive palestinienne. C'est dans ce contexte que Donald Trump a atterri au Qatar, une escale dans sa tournée au Moyen-Orient afin de renforcer le poids diplomatique de Doha et contraindre Israël à reprendre les négociations avec le Hamas. Et puis dans ce journal également, nous irons au Mali où le gouvernement a dissous les partis politiques déclenchant l'inquiétude de l'opposition.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonsoir à tous. Mettre tout en œuvre pour que la paix se répande en Orient et ses nombreux théâtres de guerre, du Liban à la Syrie en passant par l'Ukraine ou le Tigré, c'est l'engagement pris par le pape Léon XIV ce matin devant les églises orientales dont il recevait fidèles et responsables pour leur jubilé. C'était sa deuxième audience publique depuis son élection jeudi dernier et un nouvel appel très fort à la paix, Delphine Allaire.
Oui, car c'est ce que veulent les peuples de cet Orient compliqué, cet Orient chrétien où l'histoire du salut fut contée mais qui se trouve ravagée par les guerres, la violence, les massacres, déplore le pape dans ce dense mais non moins court discours.
I popoli vogliono la pace. Dico ai responsabili dei popoli, incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo.
Les peuples veulent la paix. Je dis aux responsables des peuples, rencontrons-nous, dialoguons, négocions, affirme Léon XIV, rappelant que l'Église ne cessera jamais d'appeler à ce que les armes se taisent, ni la diplomatie vaticane d'offrir sa médiation. Léon XIV rappelle que le Saint-Siège est disponible pour que les ennemis se rencontrent et se regardent dans les yeux afin de retrouver la dignité perdue de la paix. La guerre n'est jamais inévitable, affirme-t-il, en écho à ses deux précédentes prises de parole à l'Urbi et Orbi jeudi, au Regina Coeli dimanche pour le pape. En effet, ceux qui sèment la paix passeront à la postérité, pas ceux qui font des victimes. Et il rappelle surtout Alexandra à fuir toute vision manichéenne typique des récits violents, car elle divise tristement le monde entre bons et méchants.
Merci Delphine Allaire. Et dans ce discours, le pape a souligné par ailleurs l'importance de préserver l'identité des églises orientales se trouvant en diaspora. Il souhaite que l'on promeuve l'Orient chrétien au sein des églises latines. Une attention bienvenue pour Monseigneur Edgar Madi, le quatrième évêque maroni du Brésil, où vivent 6 millions de maronites pour 211 millions d'habitants.
Le pape, il était un missionnaire avant d'être pape. Et il sait bien que la présence en diaspora de l'Église orientale est une présence qui laisse à désirer, disons, le nombre n'est pas égal au nombre des fidèles de l'Église latine, romaine. Au Brésil, dans la conférence épiscopale, on a 370 évêques. Pour les Églises orientales, nous sommes 4. On ne fait pas la différence. Et on n'a pas une indépendance, disons, de locaux. On a toujours besoin d'aide de l'évêque local pour ouvrir pour nous l'église, pour pouvoir prier. Et ça vient la difficulté. Il y a des évêques qui sont très ouverts, il y a des évêques qui sont peu ouverts, méfiants. Je dis, on est un, comme le pape a dit aujourd'hui, on n'est pas des enfants adoptifs. On est les enfants de l'Église. On fait partie de cette famille.
Monseigneur Madi de l'éparchie Notre-Dame du Liban des Maronites, basée à Sao Paulo, des propos recueillis par Marie Duhamel. Et le jubilé des églises orientales qui s'achève ce mercredi à Saint-Pierre, une divine liturgie en rite byzantin s'est tenue en début d'après-midi. Un site pour en savoir plus à vaticannews.va. Il y a 24 heures, Donald Trump annonçait la levée des sanctions américaines contre la Syrie, déclenchant des scènes de liesse à travers le pays dévasté par des années de guerre. Depuis, le président américain a rencontré le président syrien par intérim, Ahmad al-Sharrah, et lui a demandé de rejoindre les accords d'Abraham, soit de normaliser sa relation avec Israël. Cette rencontre a eu lieu ce matin à Riyad, première étape de la tournée de Donald Trump dans la région. Il est désormais arrivé au Qatar, une escale lourde de sens, alors que la veille, une délégation israélienne a été envoyée pour des négociations sur les otages retenus à Gaza. Explication avec Agnès Levallois, vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études méditerranéens au Moyen-Orient.
ce qui est important dans cette escale, si je puis dire, de Donald Trump au Qatar, c'est que le Qatar est quand même le partenaire de la négociation entre Israël et le Hamas, ce qui doit déplaire fortement à Netanyahou. Hein. Donc là aussi, c'est quand même, passez-moi l'expression, mais une baffe ou une gifle pour Netanyahou que Trump s'arrête au Qatar, lorsque l'on sait que la dernière libération d'otages s'est faite directement entre les Américains et le Hamas, sans passer du tout par Israël, que du coup, il y a une pression supplémentaire mise sur Netanyahou pour qu'il accepte de reprendre les négociations avec le Hamas à travers le Qatar. Et donc, c'est une façon de renforcer le poids diplomatique du Qatar dans cette négociation, ce qui ne plaît évidemment pas du tout à Netanyahou, qui, ces derniers temps, a lancé des campagnes contre le Qatar, expliquant que le Qatar jouait double jeu. Or, le Qatar, il fait ce qu'on lui demande de faire, et ce que les Américains en particulier lui demandent de faire, à savoir négocier, servir d'intermédiaire, parce que c'est ce qu'il sait très bien faire. Et avec sûrement à la clé eh bien, des pressions qui vont s'exercer sur Netanyahou pour qu'il arrête cette guerre qui est très mauvaise pour le commerce et les affaires.
Épreuve des intentions avant tout commerciales des États-Unis, la compagnie aérienne Qatar Airways annonce une commande de 160 avions pour une valeur de 200 milliards de dollars à la compagnie américaine Boeing. Cette tournée est scrutée de près par le Hamas qui a appelé le président américain à poursuivre ses efforts pour mettre fin à la guerre à Gaza, à l'heure où l'on déplore 80 nouvelles victimes dans des frappes ce mercredi et où Israël a annoncé intensifier son offensive. L'Allemagne exhorte à toutes les parties concernées à éviter au plus vite une famine à Gaza. Dans sa première déclaration de politique générale face aux députés, le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz a aussi réitéré le soutien inébranlable à l'Ukraine et appelé Kiev à refuser toute paix dictée par la Russie. Déclaration forte à la veille de la tenue de pourparlers de paix en Turquie ce jeudi, à l'initiative de Volodymyr Zelensky, qui demeure dans l'attente d'une réponse de Vladimir Poutine. Réagissant à la tenue de cette rencontre en marge d'une conférence à l'université pontificale grecque, le secrétaire d'État du Saint-Siège, Petro Parolin, a déclaré espérer avancer réellement sur le chemin de la paix. On change de continent désormais, direction le Mali. Mardi, les partis politiques et les organisations à caractère politique ont été dissous, quelques jours après la suspension jusqu'à nouvel ordre de la chaîne française TV5 Monde, des décisions redoutées depuis plusieurs semaines par l'opposition. Les précisions de notre correspondant régional, Abdulrazak Idrissa.
La décision officialisée par décret présidentiel marque une étape décisive dans la reconfiguration du paysage politique malien déjà profondément bouleversé depuis l'arrivée au pouvoir de la dite junte en 2020. Le président Goïta, qui concentre aujourd'hui l'essentiel des pouvoirs, poursuit ainsi une stratégie de reprise en main du champ politique amorcée depuis plusieurs mois. Vendredi dernier, la chaîne d'information francophone TV5 s'est vue retirer ses droits de diffusion par la Haute Autorité de la Communication du Mali, une décision qui vient s'ajouter à celle de même nature qui a frappé France 2, LCI, RFI et France 24 il y a plus de 3 années. Pour beaucoup, l'abrogation de la charte des partis politiques pourrait constituer le prélude à une mise sous tutelle complète de la vie politique par le régime militaire sous couvert de réformes. Le collectif des partis pour la défense de la Constitution, regroupant plus de 100 formations et mouvements politiques, a d'ores et déjà annoncé avoir engagé une procédure judiciaire en urgence pour contester le décret présidentiel suspendant ses activités. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour Radio Vatican.
Et autre parti radié, celui du Front de Libération du Peuple du Tigré, parti qui a dominé durant près de 30 ans la vie politique en Éthiopie. Il a été radié pour ne pas avoir respecté ses obligations légales, a annoncé mercredi la commission électorale. Depuis plusieurs mois, les tensions entre les dirigeants de cette formation sont extrêmement vives, ravivant le spectre d'un nouveau conflit. Avant de clore ce journal, l'image du jour au Vatican, celle de la rencontre entre le pape Léon XIV et le numéro 1 mondial du tennis, Jannik Sinner. Profitant d'une journée de repos au Masters 1000 de Rome, le joueur de tennis italien s'est rendu au Vatican pour saluer le nouveau souverain pontife qui a déjà confié être un grand amateur de ce sport. La vidéo de leur rencontre est à retrouver sur notre site internet, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Et puis également à retrouver sur le réseau social X, le compte Pontifex relancé à nouveau en 9 langues, français y compris, comme par le passé. Plusieurs publications y apparaissent déjà. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute. L'actualité en langue française revient à 8h30 heure de Rome demain. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous.